les voix de l'artisanat. Du 7 au 12 avril se tiendront les journées européennes des métiers d'art. Chaque jour de la semaine sur Erdiwa, à 17h10, un portrait à écouter pour découvrir un métier, un parcours. Dans cet épisode, Erwan David, bijoutier.
Je suis donc Erwan. Je crée des bijoux depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Je suis installé à Dijon depuis une quinzaine d'années. J'ai installé mon atelier rue Pailleuse. Je crée mes collections que je diffuse un peu moins largement maintenant. Je les vends surtout en direct et puis j'ai quelques dépôts-ventes. Mais à une époque, je les vendais pas mal dans des boutiques. J'avais tout un réseau de boutiques avec lesquelles je travaillais, que ce soit en Bretagne, en Belgique, un peu national et un peu à l'export. Mais j'ai un peu levé le pied là-dessus, parce qu'il y a un contexte du commerce du détail qui est de plus en plus tendu, et puis des enjeux plus internationaux qui sont que les matières premières sont de plus en plus chères, qui permettent de moins en moins à des petites marques comme les miennes d'exister, quoi. Parce qu'il faut faire énormément de volume, et ce volume-là, pour le faire, il faut beaucoup d'investissements, ou alors être déjà en place depuis des années, etc. Mais j'ai jamais vraiment réussi à être en place, donc du coup, voilà. Mon parcours, j'ai fait des études de biologie. Au cours de mes études, j'ai eu l'opportunité de reprendre une boutique et de commercialiser les bijoux que j'avais commencé à créer comme ça à la suite d'une rencontre. J'avais rencontré un créateur sur Paris qui m'avait vraiment fasciné, et j'avais vraiment envie, à l'issue de ce souhait, de ça, de me mettre à faire des bijoux. Donc j'avais commencé dans mon coin à les faire, et puis ça s'est trouvé qu'on m'a proposé de prendre la gestion d'une boutique, de développer plus de collections pour que la boutique soit exclusivement dédiée à mes bijoux. Et donc j'ai commencé, j'ai parallèlement donc arrêté mes études, et puis ça a fonctionné. Ça fait donc plus de 20 ans, et c'était ça fait 23 ans, 2003.
Selon toi, qu'est-ce qu'un artisan d'art ?
Un artisan d'art, ça serait... pour moi, il y a la notion d'art, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité quelque part en nous de produire des choses qui nous traversent, qui nous inspirent, qui nous font plaisir. En fait, il y a cette notion-là de quand même de venir remplir un endroit où on a besoin d'exprimer quelque chose, au même titre que ce soit que la musique, que l'écriture, ça vient pour moi d'une nécessité. Et artisan, du coup, ça s'exprime au travers d'un métier manuel. Voilà. Alors moi, j'ai un matériau de prédilection qui est l'étain, qui offre pas mal de possibilités en termes de forme, en termes d'aspect de matière, de texture. Et ce que j'essaye, c'est de... C'est une sorte de micro-sculpture, en fait, de petite sculpture portative, quoi.
Si je voulais exercer ton art, que devrais-je faire ?
Bon, il y a plusieurs possibilités. Il y a démarrer par la filière un peu, on va dire, institutionnelle, c'est-à-dire passer un CAP bijouterie, et puis plus, si tu sens l'envie et la capacité de le faire. Mais il y a avant tout trouver une matière qui t'inspire et exprimer ce que ça t'inspire en tournant autour, quoi. J'ai mon atelier à Die, rue Pailleuse. Il y a une partie bureau, là, que je partage avec un copain. qui lui a une activité exclusivement qui se joue avec l'ordinateur. Puis après, il y a une partie atelier, une première partie atelier qui, là, où j'entrepose le stock de matière en tout genre, que ce soit des apprêts, donc tout ce qui est système de boucles d'oreilles. J'entrepose aussi des pièces qui vont constituer mes collections à diverses étapes. Donc, soit c'est des pièces brutes en étain poli ou non, soit c'est des pièces qui ont été à une époque traitées. À une époque, je confiais mes pièces en étain à une entreprise qui faisait un plaquage d'or ou d'argent. Donc voilà, j'ai des bijoux semi-finis ou finis dans plein de tiroirs. C'est une partie plutôt bordélique. Parce qu'il y a plein d'endroits où je... Enfin, il y a plein de pièces que je ne sais pas où ranger, parce que c'est des projets en cours, des choses qui... des inspirations qui me sont venues comme ça, que j'ai fait, en me disant, ouais, voilà, puis je constate que pour telle et telle raison, ça ne peut pas s'inscrire dans une collection, ça peut pas... c'est un peu trop lourd pour être porté, donc c'est... il faudrait que je trouve une autre matière pour pouvoir l'alléger. Il y a des travaux en suspens. Il y a des bijoux qui sont là en attendant d'être rangés, tout simplement, dans des tiroirs qui leur sont vraiment dévolus. Et après, il y a une troisième, il y a un troisième endroit où là, c'est l'espace fonderie. Et donc là, j'ai des moules. Donc moi, je suis aussi donc fondeur d'étain. Je fabrique des pièces de base, de ce qu'on appelle des maquettes. Ensuite, je les moule. Donc je fabrique un moule en silicone que je vais mettre ensuite dans une machine pour reproduire ces pièces en série. Et là, c'est encore un autre endroit un peu bordélique, mais un peu moins.
Et comment tu y travailles ? Dans quelle temporalité ?
Là, j'entretiens un rapport un peu particulier avec mon travail, où maintenant j'y vais quand vraiment j'ai des choses à faire. J'arrête d'y aller pour faire passer le temps, parce que je me rends compte que je suis pas efficace, que je fais vraiment tourner l'horloge et que c'est pas... c'est pas gratifiant, moi j'y trouve pas de plaisir et puis je... Donc voilà, donc j'y vais, je me rends compte que j'ai plus d'idées qui me viennent quand je suis en train de faire des choses, donc il n'y a pas nécessité à ce que j'y sois et que j'attende qu'une idée me vienne comme ça. C'est quand je suis en train de travailler sur un projet que d'autres idées me viennent en fait. Donc j'essaie d'être le plus présent possible d'une manière psychique dans mon atelier quand j'y suis. Et quand psychiquement je ne suis pas trop dans un processus de création, je n'y vais pas. Là, par exemple, je suis sur une série de bagues pour hommes. Donc les étapes, c'est je prends un peu d'étain que je fais fondre au chalumeau, que je mets en forme à plat. Et ensuite que j'enroule pour former un anneau et que je retravaille, que je ponce, etc., que je polie, j'apporte après l'aspect final que je veux obtenir une fois que la bague est en forme. Et donc voilà, après si cette bague là me plaît, soit je la démonte, je la remets à plat pour pouvoir la mouler et la reproduire, soit je considère que c'est une bague qui restera une bague unique et voilà, elle reste pas forcément dans un coin sans but précis, mais au bout d'un moment je la vends sur des marchés, soit je la mets dans un dépôt vente. Les avantages, bah déjà c'est hyper gratifiant de enfin je sais pas, moi je me sens bien quand j'arrive à créer des bijoux dont je suis content, dont je suis fier. Ça c'est quelque chose d'assez positif dans ce que ça m'amène d'un point de vue vraiment personnel. Je suis content d'avoir réalisé ça. L'avantage, c'est que ça reste un métier aussi qui a plusieurs facettes, dans le sens où voilà, je crée des bijoux pour moi. Parallèlement à ça, je fabrique aussi pour d'autres, donc avec quelque chose de beaucoup moins engageant, dans le sens où il y a un début, une fin. Les gens m'envoient des pièces soit à mouler, à reproduire, soit des pièces à souder, soit des pièces, etc. Je sais que j'en ai 50 à faire, je les fais les 50, tac, c'est fini, je suis payé pour ça. Et donc, du coup, il y a une articulation du temps de travail qui, moi, me plaît beaucoup, qui me permet de... il y a une temporalité qui est si on se débrouille bien, qui fait qu'on peut se libérer du temps quand on a besoin de se libérer du temps, en fait. Ouais, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas une année qui se ressemble et que du coup, rester sur... pouvoir se dire « Ah, bah, cette année, ça a bien marché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était cool, je vais refaire l'année prochaine. L'expérience me montre que ça ne se déroule jamais deux fois de la même manière, donc il y a une certaine incertitude qui se dégage de ça et qui peut vraiment... Maintenant, ça va, mais à une époque, m'a plongé dans des petits moments d'angoisse de « ça va être quoi l'année, là ?» Mais au final, on fait les comptes à la fin de l'année, puis on se rend compte que ben, ça l'a encore fait. Mais c'est jamais la même chose. Donc c'est toujours un petit peu déstabilisant. L'anecdote la plus marquante, c'est celle qui m'a déclenché, qui a déclenché ma vocation, quoi. C'est de rencontrer ce gars-là, là, qui n'est pas forcément quelqu'un qui me fascinerait maintenant, mais à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, je sais pas, il y avait tout un univers que je découvrais d'un coup. Un gars qui se laissait vraiment porter par ses envies, par ses idées, qui avait des idées assez belles d'ailleurs. Moi, je trouvais qu'il produisait des bijoux. Il a arrêté maintenant, mais il produisait des bijoux vraiment originaux, vraiment, vraiment personnels. Et du coup, cette anecdote-là, moi, ouais, je pense que c'est celle-ci qui me marque le plus. C'est-à-dire, en plus de ça, elle est constitutive de 23 années de ma vie, quoi.
Quelque chose à ajouter ou à transmettre ?
Non, je crois pas. Il y a toujours ce rapport dans le monde de la bijouterie fantasy, tel que je le perçois. C'est-à-dire que je ne travaille pas les métaux précieux, mais je travaille donc l'étain, le laiton. Je suis toujours touché par les gens qui cherchent pas, qui cherchent des bijoux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont touchés par la personnalité de certains bijoux. Moi, je suis toujours touché, par exemple, quand je vois dans des boutiques des bijoux exposés qui sortent vraiment de ce qu'on peut voir un peu partout. Et c'est ça que j'ai envie de défendre, je crois. Des bijoux personnels qui apportent quelque chose à l'idée de la bijouterie, quoi.
Ses collants, léopards, ses 28 clébards, et le bedeau, le bougna, et puis son éminence, et même ma mère en transe, me disent qu'est-ce que t'en penses, et moi, j'en pensais rien, j'étais là, j'étais bien, je m'étais levé un peu tard, j'avais même un peu faim, j'étais content de tout, j'en foutais de partout, et puis de toute façon, j'avais pas pris mon bain. Mathilde revient, Mathilde revient, Mathilde allez, reviens, on sortira le vin de danser des festins. Mathilde revenue avec ses enfants qui chialent, son tube de gardénal, ses complexes de balle, le bedeau, le bougna, tous ces blaireaux du dimanche qui m'ont bien pris pour une tanche, qui me disaient vas-y champion, vas-y passe pas pour un con, vas-y bouffe-y la chatte, vas-y casse-lui ses petites pattes. Moi je l'ai trouvé vulgaire, j'avais même pas comment faire, j'étais pas forcément contre, mais bon fallait comment. Mathilde attend, Mathilde attend, Mathilde, mais Mais t'attends quoi? Moi de toute façon, là d'où je suis, je t'entends pas. Mathilde est restée là, à nous regarder faire, à critiquer Maria, à taper dans nos bières et le bedeau, le pougnat. Qu'on n'avait plus rien à faire, on jouait les filles de l'air et on prit des vacances. Et moi, j'en pouvais plus de me traîner cette morue qui voulait pas comprendre qu'à force de l'attendre, j'avais usé mon cœur sur de pauvres mains qui tremblent, mis fin à mes ardeurs et foutu le feu à sa chambre. Mathilde, va-t'en, Mathilde, va-t'en, Mathilde. Mais casse-toi, moi je te jure que si tu restes, je vais te péter les doigts. Mathilde repartit comme elle était revenue, avec ses talons aiguilles et ses grandes jambes de cru, à retrouver ses compères, le Bedeau, l'éminence, à pas lâcher l'affaire et à tenter sa chance. Et moi, je me suis bien marré à les voir galérer, à les voir s'engueuler, à les voir chialer. Je me disais, allez con, allez v'là les champions. Et avec la Maria, on se glissait sous les draps. Mathilde, merci. Mathilde, merci. Mathilde, vraiment, merci. Avec toutes tes histoires, j'économisais 20 ans de psy.
Love.